Eroua Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour chez vous, chers auditeurs. Merci de nous écouter sur VOA Afrique, voafrique.com. Eric Manirakiza et Lionel Runanira Gaïma en votre compagnie. Nous sommes jeudi 7 avril 2016. Le sommaire de cette édition.
Premier gouvernement talon au Bénin, 21 ministres au total pour mettre en application les promesses électorales.
Le Rwanda commémore 22 ans de génocide jusqu'au 4 juillet prochain.
Un non-lieu contre le vice-président kényan devant la CPI, la procureure Bensouda a clôturé le dossier malgré elle.
Au Tchad, les conditions sécuritaires réunies pour un bon déroulement de la présidentielle du 10 avril en vue de désigner le futur occupant du Palais Rose.
Nous ne tolérerons pas qu'il y ait des déviances comportementales qui puissent porter atteinte à la sécurité publique, à l'expression des libertés de nos concitoyens.
Le ministre de l'administration du territoire.
Guillaume Soro épinglé par un rapport onusien sur l'acquisition de près de 300 tonnes d'armes après 2011, mais l'intéressé dément.
Les rebelles ont été armés, des armes sont rentrées en Côte d'Ivoire par le Burkina Faso.
Le Paul Léonard Ngoué, expert en relations franco-africaines.
Le diabète tue plus qu'en 1980 et c'est en Afrique que des cas explosent. C'est le journal Le Nouveau Gouvernement au Bénin, le premier formé par le président élu Patrice Talon. Juste quelques heures après son entrée en fonction, son gouvernement compte deux ministres d'État, tous les deux anciens candidats présidentiels au premier tour, arrivés quatrième et cinquième, membres de la coalition qui a porté M. Talon au pouvoir.
Jean-Roger Bion. Pas de temps à perdre, le président élu veut montrer aux Béninois qu'il est déjà à la tâche. Selon le communiqué lu par Pascal Irénée Koupaki, candidat malheureux arrivé cinquième au premier tour de la présidentielle, mais aussi ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République de ce premier gouvernement, 21 ministres, dont trois femmes ont la charge d'accompagner M. Talon à réformer l'administration et les institutions du pays, une priorité de l'homme fort de Cotonou. Un autre soutien au président pour sa réélection et qui rejoint son gouvernement, c'est Abdoulaye Bio Tchané qui avait décroché la quatrième place au premier tour. Il hérite du ministère du Plan et du Développement en tant que ministre d'État. Un secrétaire général du gouvernement a été aussi désigné en plus des 21 ministres. Pas de perte de temps non plus. Ils doivent tous prendre service aujourd'hui avant 18h heure locale selon la présidence.
La procureure de la Cour pénale internationale a dénoncé hier une campagne acharnée d'intimidation de témoins pour expliquer l'abandon des poursuites contre le vice-président kényan William Ruto dans les graves violences de l'après-présidentielle de 2007. Les détails avec Nanith Talani.
Les juges de la CPI ont décidé de prononcer un non-lieu en faveur de M. Ruto et de son co-accusé, le journaliste Joshua Arap Sang, estimant insuffisants les éléments présentés par la procureure Fatou Bensouda depuis le début du procès en septembre 2013. Les deux accusés étaient poursuivis pour des meurtres, persécutions et déportations durant les violences qui avaient suivi la réélection contestée du président Mwai Kibaki en décembre 2007, faisant plus de 1300 morts et 600 000 déplacés, selon l'accusation. Il s'agit des pires violences de l'histoire post-coloniale du Kenya. Messieurs Ruto et Sang ont nié les trois accusations de crimes contre l'humanité portées contre eux pour meurtre, expulsion forcée et persécution. La procureure a regretté que des obstacles au cours des enquêtes et poursuites aient contrecarré le cours de la justice pour les victimes. D'après Fatou Bensouda, avant même que la CPI n'autorise le lancement d'une enquête en 2010, une campagne avait démarré pour intimider les témoins et elle s'est intensifiée dans les semaines menant au procès et a continué pendant toute la durée du dossier. La procureure a aussi accusé Nairobi de ne pas avoir pleinement coopéré à l'enquête, une mise en cause rejetée par le Kenya.
Nanith Talani. Crise libyenne, une conclusion rapide du transfert de pouvoir au gouvernement d'Union nationale s'impose, a fait savoir l'émissaire spécial onusien pour la Libye. La fragile paix de la capitale libyenne ne pourra pas tenir si le nouveau gouvernement n'est pas à même de fonctionner, a-t-il averti. Les précisions de Michel Joseph.
L'émissaire Martin Kobler a appelé mercredi le Parlement libyen internationalement reconnu, siégeant dans l'est du pays, à voter pour déterminer s'il appuie le gouvernement d'union nationale. Faute d'une action rapide, ce Parlement risque de se retrouver marginalisé, a expliqué l'émissaire onusien dans un entretien accordé à l'agence Reuters. Depuis 2014, la Libye est dirigée par deux gouvernements et deux parlements rivaux, appuyés par des groupes armés. Formé à la suite des pourparlers sous médiation onusienne et de l'accord signé en décembre, le gouvernement d'Union nationale est arrivé à Tripoli la semaine dernière. Il est chargé de mettre un terme au chaos dans le pays. L'optimisme suscité par son déploiement était tiédi par une annonce mercredi du gouvernement de salut national de Tripoli, entité non reconnue par la communauté internationale. La mesure enjoint au ministre de ce gouvernement de rester en place, contredisant ainsi un communiqué publié mardi, selon lequel le gouvernement de Tripoli cédait la place au gouvernement d'Union nationale.
Il y a justement un problème. Le gouvernement d'Union nationale, les autorités non reconnues de Tripoli qui continuent de s'opposer. Pourtant, le premier ministre désigné du gouvernement d'Union semblait avoir engrangé un nouveau succès avec le ralliement des autorités parallèles de Tripoli, un pas important en vue de sortir le pays du chaos. Martin Kobler, envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, doit rendre compte aujourd'hui devant le Conseil de sécurité de sa mission dans le pays lyonnais.
Au Rwanda, 22 ans après le génocide, les Rwandais se rappellent aujourd'hui de cette tragédie du siècle qui s'est abattue sur le pays de mille et une collines. Le président tanzanien John Magufuli s'est joint à son homologue Paul Kagame. Pour la commémoration, le deuil national s'étendra jusqu'au 4 juillet, date de la fin du génocide. Maurice Magohane est à Kigali.
Ce jeudi marquait le début de 100 jours de commémoration du génocide de Tutsi de 1994. Une centaine de journées qui suffirent il y a 22 ans pour qu'environ plus de 800 000 personnes, essentiellement issues de la minorité Tutsi, soient massacrées. Au programme de la journée de la commémoration, le président rwandais Paul Kagame, accompagné par son homologue tanzanien Dr. John Magufuli, a allumé au mémorial de Gisozi à Kigali une flamme de deuil qui brûlera durant les 100 jours. Ensuite, une marche de souvenirs et une veillée sont également prévues. Paul Kagame s'exprimera au stade Amahoro de Kigali en présence de représentants de nombreux pays et organisations. Le deuil officiel au Rwanda prendra fin le 4 juillet. Maurice Magolane, VOA Afrique, Kigali.
Une délégation égyptienne doit rendre compte à Rome à partir de ce matin de l'enquête sur le supplice d'un étudiant italien au Caire, après lequel l'Italie menace de prendre des mesures de rétorsion.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a rappelé ce mercredi à Washington l'apport de l'OTAN aux États-Unis après les attentats du 11 septembre. C'est une réponse discrète aux critiques acerbes de Donald Trump sur l'Alliance Atlantique. Le candidat à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle a multiplié récemment les critiques contre l'OTAN, une organisation qui est selon lui obsolète et trop généreusement financée par les États-Unis. En revanche, le président Obama a souligné lundi que l'OTAN demeurait un pilier, une pierre angulaire de la politique de défense des États-Unis. Cependant, M. Stoltenberg a par ailleurs ajouté que les Européens savent qu'ils doivent augmenter leurs dépenses militaires et moins se reposer sur la superpuissance américaine pour les défendre.
Présidentielle américaine, le républicain Donald Trump a attaqué violemment son rival Ted Cruz lors d'un meeting électrique ce mercredi soir près de New York, nord-est des États-Unis, sans même mentionner sa défaite la veille lors des primaires dans l'État de Wisconsin. Des milliers de supporters enthousiastes étaient venus l'écouter à Bethpage, sur l'île de Long Island, à une heure environ de Manhattan.
En marche, c'est le nouveau mouvement politique de Emmanuel Macron, le jeune ministre de l'économie de François Hollande. Selon M. Macron, considéré être l'électron libre du gouvernement socialiste français, son mouvement constitue une dynamique face au blocage de la société pour essayer d'avancer. Une enquête d'opinion réalisée en février faisait d'Emmanuel Macron le candidat de remplacement de François Hollande, préféré pour représenter les socialistes aux yeux de 31% des Français, mais de seulement 14% des sympathisants du parti.
Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minuteco avec Nathalie Barge.
Le comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale a décidé de baisser de 50% les coefficients des réserves obligatoires applicables aux banques de la CEMAC. La décision intervient après le constat d'une contraction dans les liquidités des banques d'Afrique centrale, dont les réserves obligatoires oscillent entre 500 et 600 milliards de francs CFA. Ouverture à Casablanca de la 4e édition Hub Africa. Quelques 10 000 visiteurs sont attendus à cette rencontre dont le thème est l'entrepreneuriat comme accélérateur de l'émergence économique. Il s'agit notamment de promouvoir le développement de l'investissement interafricain et de sensibiliser les opérateurs internationaux sur les opportunités d'investissement par secteur et par pays. 8 prix seront décernés aux entrepreneurs les plus performants au niveau continental. La filiale au Bénin du groupe Bank of Africa a réalisé un bénéfice net de 12,3 milliards de francs CFA en 2015, en hausse de 4,8% par rapport à l'année précédente. Les intérêts et produits assimilés ont atteint 32,4 milliards de francs CFA, une progression de 8%. Le conseil d'administration de la BOA a proposé que soit distribué un dividende de 8 100 francs CFA par action, supérieur aux 7 716 francs CFA versés pour le compte de l'année 2014.
C'est tout pour la Minute Éco. Merci Nathalie. Nous enchaînons directement avec l'actualité sportive présentée par Nicolas Pinault. Bonjour Nico.
Bonjour Eric.
Football d'abord, le Togo a un nouveau sélectionneur.
Claude Leroy a été nommé sélectionneur des éperviers hier. Après le Cameroun, le Sénégal, la RDC, le Ghana et le Congo, il s'agit donc de la 6e sélection africaine prise en charge par le sorcier blanc de 68 ans. Le Togo est 3e de son groupe de qualification à la CAN 2017 et ça ne va pas être facile puisque le Togo est 3e de son groupe des qualifications à la CAN 2017. Il lui faut absolument 2 victoires pour espérer décrocher un billet pour le Gabon. J'ai joint hier soir à Paris Claude Leroy, on l'écoute.
On est surtout en train d'essayer de bâtir quelque chose de solide pour 2019. 2017, ça serait un plus formidable, bien évidemment, mais bon, pour ça, il faut aller gagner au Liberia, battre Djibouti et faire partie des 2 meilleurs seconds, ce qui me semble tout à fait jouable à 13 points. Quoi. Donc, il me semble qu'avec 2 victoires et 13 points, il y aurait une qualification derrière, mais bon, c'est très compliqué d'aller gagner au Liberia.
Claude Leroy, le nouveau sélectionneur du Togo, une interview à retrouver sur voaafrique.com.
En Ligue des Champions, suite des quarts de finale, Nico.
La douche froide pour le Real Madrid, battu 2-0 en Allemagne par Wolfsburg. Rodriguez et Arnold, buteurs pour les Allemands. Il va falloir réagir lors du match retour en Espagne à Santiago Bernabéu pour les Madrilènes. Match nul de partout au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Les Citizens ont ouvert la marque par De Bruyne avant que Zlatan Ibrahimovic n'égalise dans la foulée. Au retour des vestiaires, c'est Rabiot qui donne l'avantage aux Parisiens. Mais Fernandinho douche les Parisiens en égalisant pour Manchester. Le Paris Saint-Germain en ballottage défavorable avant le match retour en Angleterre.
Et Nico, nous revenons sur le scandale Panama Papers, l'UEFA éclaboussé.
La police suisse a perquisitionné hier le siège de l'UEFA à Nyon pour obtenir les contrats d'attribution des droits TV à la société Cross Trading, citée dans le scandale des Panama Papers et impliquant le nouveau président de la FIFA, Gianni Infantino. Dans un communiqué, l'UEFA indique avoir reçu la visite de la police fédérale suisse agissant en vertu d'un mandat demandant avoir des contrats entre l'UEFA et Cross Trading concernant l'attribution des droits télévisés de la Ligue des Champions pour les saisons 2006 à 2009 en Équateur. Enfin, Eric, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Merci Nico. Oui, match total hier à la NBA. Indiana a vaincu Cleveland 123 à 109. Washington a battu Brooklyn 121 à 103. Portland a gagné contre Oklahoma 120 à 115. Clippers l'a emporté contre Lakers 91 à 81. Dallas a battu Houston 88 contre 86. Succès de Boston contre la Nouvelle-Orléans 104 à 97. Détroit s'est imposé devant Orlando 108 à 104. Enfin, Nico, Charlotte a battu New York avec 111 à 97.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Retour avec vous pour développer l'actualité en Afrique et dans le monde. Eric Manilakizan, votre compagnie sur VOA Afrique et voafrique.com. Le Monde aujourd'hui, la deuxième partie de notre émission. D'abord au Tchad, 6 millions d'électeurs sont appelés aux urnes le 10 avril prochain pour élire leur président. Ils devront choisir entre 14 candidats en lice, dont le président sortant Idriss Déby Itno, qui brigue un cinquième mandat. Le gouvernement N'Djamena assure que la sécurité est maîtrisée pour un bon déroulement du scrutin, mais met en garde contre toute tentative de troubler l'ordre public. André Kodmadjingar.
Le président sortant Idriss Déby Itno fait face à 13 candidats qui se réclament tous de l'opposition démocratique. Au total, plus de 18 000 bureaux de vote sont retenus à travers le pays. Les hommes en treillis, quant à eux, votent un jour avant les civils pour leur permettre d'assurer la sécurité des citoyens le jour du vote.
Nous sommes tout à fait à l'aise pour dire que les mesures ont été prises pour que le 10 avril prochain, tout se passe bien. Parle sous le contrôle de mon collègue de la sécurité publique, il n'est pas au courant de donner des chiffres concernant les effectifs à mobiliser. Mais je puis vous certifier que ces effectifs-là seront un nombre suffisant pour pouvoir remplir convenablement leur mission.
Lui, c'est le ministre de l'administration du territoire, Mahamat Ali Hassan. Il met en garde tous ceux qui tenteraient de troubler l'ordre public le jour du vote.
Nous avons en particulier le souci majeur de créer les conditions d'un respect absolu de l'ordre public. Et donc, nous ne tolérerons pas qu'il y ait des déviances comportementales qui puissent porter atteinte à la sécurité publique, à l'expression des libertés de nos concitoyens. Nos gouverneurs ont été instruits à cet effet, de même d'ailleurs que les autres démembrements de l'administration, que sont les départements, les sous-préfectures, etc.
Cette consultation électorale va se dérouler dans une situation sécuritaire peu ordinaire due à la menace de Boko Haram. Le ministre de l'administration du territoire en est conscient.
La menace terroriste, elle existait avant même que cette échéance-là ne soit déclarée. De toute façon, nous avons obligation de veiller à la préservation de la sécurité de nos concitoyens. Et donc, ce sont des choses que nous appréhendons concomitamment. À partir de l'instant où les terroristes, ils ambitionnent de faire le plus de dégâts humains et matériels possibles, notre responsabilité à nous est de veiller à ce qu'il y ait le moins de prises possibles à ce type de situation.
Mahamat Ali Hassan demande à ses collaborateurs, notamment les autorités administratives, civiles et militaires, d'être neutres car la crédibilité de cette élection en dépend.
Nous rappelons, chaque démembrement de l'administration a ses devoirs. C'est un devoir donc de neutralité, c'est un devoir qui consiste à veiller à ce que le scrutin se passe dans les bonnes conditions. C'est vrai, il a pu peut-être se faire par le passé que des déviances ou des situations ont pu être observées. Si le cas se reproduisait, bien entendu, des mesures appropriées seront prises pour réprimer ce type de comportement.
Selon les sources proches de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, les matériels électoraux sont en train d'être déployés pour la tenue effective de cette élection. André Kodumadjingar N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
Dans Washington Forum, cette semaine, vives tensions et violences post-électorales meurtrières au Congo. L'opposition dénonce ce nouveau mandat de Sassou Nguesso. Quel dialogue entre le pouvoir et l'opposition? Et le Tchad, dans la dernière ligne droite avant le scrutin présidentiel du 10 avril. 14 candidats sont en lice, dont Idriss Déby qui brigue un cinquième mandat consécutif. Un bras de fer oppose le président sortant à la société civile. Comment garantir des élections apaisées? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Retrouvez Tatiana Mosso dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
Et en Côte d'Ivoire, les forces nouvelles ex-rébellion ont acheté près de 300 tonnes d'armes et de munitions au lendemain de la crise post-électorale de 2010-2011. Accusation formulée par un groupe d'experts de l'ONU dans un rapport confidentiel adressé au Conseil de sécurité. Guillaume Soro, le leader des forces nouvelles d'alors et actuel président de l'Assemblée nationale, se serait lui-même chargé de l'acquisition du matériel. D'après la presse ivoirienne, Guillaume Soro a rejeté ces accusations. Pour parler de son rapport, John Lindon a joint à Paris Paul-Léonard Ngwe, expert en relations franco-africaines.
La Côte d'Ivoire a été, à travers ce qu'on appelle la crise post-électorale, victime d'un vaste complot dans lequel l'ONU a également à répondre de sa responsabilité. Parce que ce sont des événements qui sont survenus alors que le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, était représenté en Côte d'Ivoire par M. Choi. Donc, il se trouve que, alors que depuis 2003, le président Gbagbo avait demandé, notamment à l'ONU, que des enquêtes soient faites sur des exactions monstrueuses commises par les rebelles. Les rebelles ont été armés. Des armes sont rentrées en Côte d'Ivoire par le Burkina Faso. Et aujourd'hui, celui qui a été victime d'une agression se trouve à la CPI. Et tous les acteurs et leurs complices sont en liberté.
Un autre rapport, justement, celui-là du secrétaire général de Ban Ki-moon lui-même, fait savoir que la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire reste stable mais fragile. Est-ce que, justement, ce volet CPI-là ne participe pas à cette fragilité?
C'est de l'humour, je crois, de l'humour noir auquel s'exerce le secrétaire général de l'ONU. Parce qu'on peut parler de stabilité, mais comment peut-on parler de stabilité en Côte d'Ivoire lorsque tous les acteurs, les belligérants de la Côte d'Ivoire, hormis celui qui a été agressé, sont aujourd'hui en liberté et se meuvent librement en Côte d'Ivoire. Nous avons encore appris récemment le séjour de l'ancien président français Sarkozy en Côte d'Ivoire. Nous savons que l'ancien président du Burkina Faso se trouve en Côte d'Ivoire et d'ailleurs il a acquis la nationalité ivoirienne. Nous savons que les anciennes forces rebelles, les responsables de ces forces rebelles sont aujourd'hui au pouvoir en Côte d'Ivoire et nous savons que déjà des tiraillements se font entrevoir entre ces différents protagonistes dans la perspective des élections de 2020.
Quand vous parlez d'acteurs en liberté, est-ce que vous pensez nommément au président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Soro, ou pas?
Oui, je pense au président de l'Assemblée nationale, mais pas que, puisque M. Guillaume Soro était un pion de Alassane Ouattara, nous le savons très bien, et aussi de Blaise Compaoré. Nous avons appris un certain nombre d'éléments qui attestent de ses connivences à travers les récentes écoutes rendues publiques suite aux événements qui ont précédé les dernières élections au Burkina Faso. Ce qui peut sembler curieux, c'est que jusqu'à présent, alors qu'il y a eu des armes qui sont parties du nord vers Abidjan, on ne peut pas prétendre que ces armes n'aient été pour rien, n'est-ce pas, dans tous les massacres qui ont été enregistrés. Un État souverain, membre de l'ONU, a été attaqué, des rebelles ont commis des exactions, un chef d'État au pouvoir a vu sa demeure bombardé par des forces étrangères, il a été remis aux forces rebelles et se trouve aujourd'hui à la CPI. Je dis, M. Ban Ki-moon doit au moins des explications à la communauté internationale et à l'opinion africaine.
Paul Léonard Angoué à Paris.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, 99 FM.
À Djibouti, le premier tour de l'élection présidentielle est prévu demain vendredi, le 8 avril. Le président Ismaël Omar Guelé est donné largement favori, devenu le second président de ce petit pays de la Corne de l'Afrique. En 1999, il a fait modifier la constitution en 2010 pour faire sauter le verrou de la limitation de mandat. L'opposant Daher Ahmed Farah, président du mouvement pour le renouveau démocratique et le développement, ne se fait aucune illusion sur l'issue du scrutin.
Condition qu'en février 2013, la commission électorale nationale indépendante, prévue par l'accord cadre signé entre l'opposition et les régimes le 30 décembre 2014, n'a pas été mise en place. Elle a été totalement rejetée par le régime qui a réactivé sa CENI à lui. De sorte que le résultat de ce pseudo-scrutin sont connus d'avance. Le vainqueur est connu d'avance, c'est M. Ismaël Omar Guelé.
Mais il y a quand même 6 candidats.
Il y a 2 candidats qui se réclament de l'opposition, 3 qui se disent indépendants. Ces gens-là se plaignent tous des conditions dans lesquelles cette pseudo-élection se déroulera, comme si c'était une découverte, alors que c'était connu, ça a toujours été de notoriété publique. Il y a en effet plusieurs candidats, mais cela ne fait pas pour autant de l'élection une élection libre et démocratique. Ce n'est pas parce que tel ou tel participe que cela change quelque chose au fond du problème.
Réaction de Oumou Daoud, représentant en France de l'Union pour la majorité présidentielle. C'était donc le opposant Daher Ahmed Farah, président du mouvement pour le renouveau démocratique et le développement, ne se fait aucune illusion sur l'issue donc du scrutin. du scrutin, le président en exercice devrait l'emporter sans problème. Et 422 millions d'adultes dans le monde souffrent du diabète, principalement dans les pays en développement, soit 4 fois plus qu'en 1980. En 2012, cette maladie chronique et les affections qui en sont liées ont tué au total 3,7 millions de personnes. Dans son premier rapport mondial sur le diabète publié à l'occasion de la Journée mondiale de la santé ce jeudi 7 avril, l'Organisation mondiale de la santé appelle à une action planétaire pour mettre un terme à la recrudescence du fléau et améliorer les soins, y compris en Afrique où les cas explosent. Pour faire le point, Jacques Aristide a joint le docteur Étienne Krug de l'OMS.
Mais très longtemps, le diabète était considéré une maladie des pays riches, mais maintenant, c'est une maladie qui touche toutes les parties du monde, y compris l'Afrique. On a vu un doublement du nombre de cas en Afrique les 35 dernières années.
Alors, qu'en est-il plus particulièrement de l'Afrique subsaharienne? Est-ce que, par exemple, vous avez noté des choses particulières dans des pays précis?
Je n'ai pas d'exemple de pays précis, mais on sait que le problème est en train de s'aggraver dans tous les pays africains, avec une prise de poids de la population. Et puis on sait aussi qu'il y a des efforts qui se font, par exemple pour améliorer l'accès aux médicaments, qui est un problème. On sait que dans seulement 23% des pays, il y a un accès convenable à l'insuline, par exemple. Par contre, certains pays sont en train de faire des efforts. Le Mozambique, la Zambie, par exemple, parviennent à subsidier l'achat de l'insuline pour permettre aux personnes qui n'ont pas la possibilité de quand même en acheter. Et c'est un médicament très important qui peut être une question de vie ou de mort pour ceux qui sont touchés par le diabète.
Que recommande l'OMS pour donc mettre un terme à la recrudescence du diabète et améliorer les soins, plus particulièrement dans les pays pauvres comme en Afrique?
D'une part, il faut s'attaquer à l'augmentation du diabète, c'est-à-dire le surpoids, donc en augmentation de l'activité physique et la qualité de l'alimentation. Ça commence au plus jeune âge avec encourager l'allaitement maternel et une alimentation saine dès le plus jeune âge, parce que c'est là que les habitudes se prennent. Et puis augmenter l'activité physique, encourager et s'assurer que ça puisse se faire de manière sûre. Le vélo, la marche à pied pour aller à l'école ou au travail, par exemple, utiliser les escaliers. Donc ça, d'une part, ça c'est la prévention. D'autre part, il faut travailler pour nous assurer que dans tous les pays, il y a un accès aux médicaments pour les diabètes et des tests diagnostiques. Là aussi, c'est une question de prix et de distribution.
En bref, les pouvoirs publics, comme en Afrique par exemple, ne doivent plus considérer le diabète comme une maladie des riches et donc ils doivent dès maintenant prendre des mesures.
Tout à fait. Les mesures que les gouvernements peuvent prendre incluent par exemple des taxes sur les boissons sucrées, des recommandations pour que le secteur privé réduise les quantités de sucre et de graisse dans les aliments. Aussi s'assurer par exemple qu'il y ait la sécurité routière pour qu'on puisse marcher et faire du vélo et du sport dans la rue sans se mettre en danger, car l'activité physique est extrêmement importante. Promouvoir l'aliment maternel, tout ça c'est des choses qu'on peut faire assez facilement.
Le docteur Étienne Krug, directeur du département prise en charge des maladies non transmissibles à l'OMS, était en ligne de Genève, en Suisse, interrogé par Jacques Aristide. Des retours sur la présidentielle en Djibouti, nous avons la réaction de Oumou Daoud, représentant en France de l'Union pour la majorité présidentielle, qui n'est pas du tout de l'avis de l'opposant Daher Ahmed Farah.
De quelle opposition parlez-vous? Parce que l'USN participe à l'élection présidentielle. Puis aussi, il y a 3 candidats indépendants. La preuve que la démocratie djiboutienne est en bonne marche, une grande première dans l'histoire politique du pays.
On dit que le résultat est connu d'avance. Ismaël Omar Guelleh va remporter le scrutin.
Ça, c'est les mauvaises langues qui le disent, parce que pour la première fois dans l'histoire politique du pays, il n'y avait jamais eu autant de candidats. Les journalistes étrangers sont sur le terrain, passent sur le plateau de télévision les candidats de l'opposition que de la coalition UNP. Tout le monde a droit à la parole, les Djiboutiens de la rue également. Les uns les autres parlent de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils entendent. Le peuple de Djibouti est souverain, suffisamment mature également pour faire la part des choses. Le candidat sortant, le président de la République, a un bilan à défendre depuis son accession à la tête du pays.
Et ça fait très longtemps quand même qu'il est à la tête du pays, non?
Il avait songé à partir. Il a répondu à la sollicitation des Djiboutiens. Il revient pour achever les œuvres déjà engagées. Nous n'avions pas d'université l'université avant 1999, nous l'avons eu en 2006. 7000 étudiants sont à l'université avec 7 filières de formation. 6500 étudiants quittent chaque année l'université de Djibouti pour arriver sur le marché de l'emploi. Les voies de chemin de fer, les routes, les ports, les infrastructures économiques qui ont été mises en place grâce à la politique économique lancée par le président de la République sont criants. Ce n'est pas du leurre, c'est quelque chose qu'on voit à l'œil nu, monsieur.
Aud Daoud du parti présidentiel, ainsi va le monde aujourd'hui. À la réalisation, Lionel Rounanila Gahima, la mise en onde est assurée par Zoubel Al-Tayed. Eric Manilakis à la présentation. Excellente journée à tous. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. Plus d'un million de fans déjà. L'actualité en Afrique et ailleurs sur notre site internet voafrique.com.